de Madame Méplé de Montluçon.
Ah, dans la Meuse.
RTL. Mais
non, pas dans
1982.
C'est pas dans la Meuse, Montluçon ? Bah, ça a glissé avec les inondations. Voilà. C'est pas dans la Meuse, Montluçon ?
Qui a dit ?
C'est dans le Cantal, Montluçon ?
Mais non.
Dans le Berry ?
On se rapproche déjà.
Mais Montluçon, c'est pas près de Vernieurey-les-Aubins ? Sur la départementale 212. Mais quand on connaît pas Montluçon, on dit.
Oui,
pas
alors
pas.
Vraiment.
Si vous avez.
Tapé sur Montluçon.
C'est toujours Paris avec vous. Paris. Mais Montluçon existe. Mais aussi. Ouais. Il a sa dignité dans le pays.
Qu'est-ce qu'il y a à Montluçon ?
Eh bien, vous avez d'abord la rue principale qui s'appelle Grand Rue. Parce qu'il faut dire que Montluçon est une ville merveilleusement achalandée. Son roman de pente, son pont des soupirs.
Son nougat.
Son nougat, Montluçon. Exactement.
Ah, le nougat de Montluçon.
Oh, ouais. Et ses berlingots également.
Oui, également. Il y a un poème sur Montluçon qui dit « Montluçon, tu me plais, j'aime beaucoup tes filles. Montluçon, je t'en prie, retire ta cédille.
Non, Montluçon, ce n'est pas dans la Meuse. Comme le disait Jacques Martin dans Les Grosses Têtes, c'est dans le département de l'Allier. C'est même une des sous-préfectures de l'Allier, dans le centre de la France. Tout à fait au centre de la France même. Quand on regarde une carte de la France, c'est assez impressionnant de voir à quel point Montluçon est au milieu, à mi-chemin entre Lyon, Bordeaux, Nantes et Paris. Alors pourquoi parle-t-on de Montluçon ? Eh bien parce que Jean-Michel, tu vas faire un papier. On va se tutoyer parce qu'on se connaît un peu en plus de tes activités au monde diplomatique. Les abonnés de la Bastille Suite te connaissent pour une rubrique qui est très plébiscitée, usage de faux. Et donc Jean-Michel, tu as fait un papier sur les villes moyennes qui se meurent, ou plutôt les villes moyennes qu'on assassine, puisque c'est assez clair dans ton papier que c'est moins une fatalité que le fruit de décisions politiques. Alors, pourquoi as-tu décidé de partir à Montluçon, Jean-Michel ? Parce que tu aurais pu choisir, Limoges, Brive-la-Gaillarde, Bourges, Troyes, Auxerre, Sens, Le Havre. Enfin, il y a des dizaines de villes comme Montluçon qui sont complètement abandonnées. Alors, pourquoi Montluçon ?
Au départ, je voulais m'intéresser à la vie dans les villes moyennes et aux difficultés auxquelles elles peuvent être confrontées. Et je voulais illustrer ces confrontés par un travail de terrain. Et donc, effectivement, je me suis retrouvé, comme tu l'es là, Jonathan, face à une carte établie par le Commissariat Général à l'égalité des territoires. Et dans cette carte, il figure la plupart des villes moyennes en France. Donc, elles sont environ 200. Les villes moyennes, il faut s'entendre sur la définition, mais en gros, pour faire bref, on considère que ce sont les villes qui ont entre 20 000 et 100 000 habitants. Au-delà, on se rapproche plutôt des grandes villes, des métropoles. Et puis, parfois, les villes moyennes, elles sont de plus petite taille. Je pense à Guéret, dans la Creuse, qui n'est pas très loin de Montluçon, d'ailleurs. Ce sont des villes qui sont plus petites, mais qui sont, disons, le seul pôle de vitalité dans un département, par exemple. Alors, pourquoi ? Parce que j'ai pris la carte, et puis je voulais quelque chose de central, effectivement. Puis, il se trouve que Montluçon, si on regarde cette carte, c'est vraiment au cœur du pays. Et c'est aussi dans une zone géographique qu'on appelle parfois la diagonale du vide. Cette diagonale, quand on regarde la carte de France, elle parle de la Meuse. Et voilà, Montluçon n'est pas dans la Meuse, comme on entendait dans le Bobino juste avant. Mais cette diagonale, elle part de la Meuse et elle va jusque dans les Landes. Elle traverse en diagonale donc la France. Et elle est d'intensité urbaine faible, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a peu d'habitants au kilomètre carré dans toute cette zone-là, et Montluçon se trouve au milieu. Voilà, j'avais envie de voir ça. Je dois préciser que Montluçon fait partie des 30 villes considérées comme les plus fragiles, les villes moyennes les plus fragiles en France.
Justement par le Commissariat Général à l'égalité des territoires.
Exact, oui, qui a relevé que toutes ces villes moyennes présentaient des particularités. Elles ont en gros un triple handicap, généralement, une baisse démographique dans le temps, dans les 30 dernières années, elles ont vu leur population chuter, des problèmes économiques, elles ont des forts taux de chômage plus prononcés que dans le reste du pays, et puis des problèmes sociaux, ce sont des zones où la pauvreté relative, quand on calcule par rapport aux revenus médians, celle qui sépare en deux les revenus en France, on se trouve que ces taux de pauvreté sont très élevés. À Montluçon, par exemple, c'est plus de 20% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté relative. Voilà. Et alors, il y a 30 villes qui conjugue ces trois difficultés, problèmes démographiques, économiques et problèmes sociaux.
Et donc, on va se concentrer sur Montluçon. Alors, avant de voir pourquoi ça va mal, on va dire quand même que c'était mieux avant. Et il y a eu un âge d'or de Montluçon qui est assez méconnu, c'était au 19e siècle. Il y a eu un essor industriel à Montluçon, notamment avec la sidérurgie.
Oui. Et alors, en cela, Montluçon illustre bien la difficulté de pas mal de villes moyennes, parce que souvent, ces villes, auparavant, vivaient bien parce qu'elles ont connu un passé industriel glorieux. Et en Montluçon, c'est particulier, puisque cette ville connaît des difficultés d'enclavement ferroviaire. Et mais il se trouve que c'est de là que sont sortis la plupart des rails en France qui ont été forgés dans les forges de la ville. Il se trouve que Montluçon bénéficiait du charbon d'une région ou d'une ville qui n'était pas très lointaine. Commentry. Oui, et qui venait par wagon, enfin qui arrivait quasiment dans la ville. Les usines étaient dans la ville, hein, dans Montluçon. Quand on regarde des images du 19e siècle, c'est assez fou de voir la vitalité, l'effervescence qu'il y avait, les cheminées partout. Donc il y avait du charbon d'un côté et du minerai de fer qui, jadis, venait par voie fluviale. Il y a un canal, qui est un petit canal, un petit gabarit, qui s'appelle le canal de Berry, qui amenait le minerai de fer.
ORTF, 12 juin 1974.
261 km de Montluçon à Marseille, les Aubigny dans le Cher, et de Montluçon à Noyers dans le Loir-et-Cher, un carrefour à Fonblis, c'était le canal de Berry, moyen de transport le plus économique et facteur numéro 1 du développement de la région montluçonnaise. C'était il y a un siècle.
Montluçon est situé à l'endroit où le Cher quitte sa haute vallée pour entrer dans la plaine. Et ce val de Cher, c'est ce qui nous conduit vers le bassin parisien, vers la Loire d'abord, vers Paris ensuite. Et ce canal où nous sommes, c'est lui qui a été en grande partie à la base de l'industrialisation de Montluçon, puisque c'est par là qu'arrivait le minerai de fer qui était traité avec la houille de Commentry dans les usines métallurgiques de Montluçon.
Tout ça a connu un essor grandissant au XIXe siècle et ça a périclité à un moment donné parce que le minerai de fer lorrain devenait plus économiquement plus rentable. C'est quand même resté très industriel jusque dans les années 1960.
Hein. Parce qu'ensuite, c'est Dunlop qui a pris la suite des hauts fourneaux.
Il y a des grosses boîtes qui sont installées, donc Dunlop en fait partie. Dunlop a employé après-guerre jusqu'à 5000 ouvriers et aujourd'hui, on en compte 600 de mémoire. Dunlop, qui a été racheté par un japonais entre-temps, puis dans les années 2000 par Goodyear, mais aussi la Sagem, qui est une vieille société française qui s'est transformée, qui aujourd'hui fait partie du groupe Safran, qui fabrique du matériel militaire, des drones en particulier, mais il y a aussi des grosses boîtes dont on parle moins, par exemple Landis-Cegir. Landis-Cegir, aujourd'hui, c'est la société qui fabrique les fameux compteurs Linky.
Ah.
Et oui. Et qui, jadis, fabriquait les compteurs électriques qui a équipé énormément de foyers en France. Mais bon, toutes ces usines, toutes ces sociétés ont la particularité d'avoir connu des plans sociaux assez importants. Et aujourd'hui, il y a encore une activité pour Safran, pour Dunlop et pour Landis-Cegir, mais une activité qui n'a aucune commune mesure avec ce qui se faisait avant les années 60.
À Montluçon, dans ta cité triste à mourir, j'étais venu à reculons, simplement pour te faire plaisir.
Une chanson signée Mickey 3D.
France 3.
Un jeu de rimes qui égratigne.
25 septembre 2009.
C'est un concert dans le quartier de Fontbouillant, il y a 13 ans, qui aurait inspiré Michael Furnon, le chanteur-compositeur, dans le choix du site.
Et il est populaire, ce garçon. Hein ?
Pas franchement vexé, le maire préfère s'en amuser. Et lui lance une invitation.
Je n'en veux pas à Monsieur 3D, Mickey. Je l'invite à revenir parce que Montluçon, depuis, a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé.
Alors tu parlais, Jean-Michel, de l'isolement dans lequel se trouve la ville de Montluçon, qui est un peu paradoxal parce qu'elle est au centre de la France et en même temps elle est éloignée de tout. Et Montluçon, c'est vrai que c'est un exemple criant des choix qui ont été faits depuis 25 ans en matière d'aménagement du territoire. C'est-à-dire que le paquet a été mis sur les lignes à grande vitesse qui ont permis de relier plus rapidement les métropoles comme Nantes, Strasbourg, Marseille. Mais en même temps, on a délaissé les villes moyennes. Et on a fait en sorte que ces lignes mal foutues, mal organisées, deviennent des petites lignes. Et qu'il y ait de moins en moins de gens qui les utilisent.
Alors c'est toute l'histoire de la poule et de l'œuf, hein. Qui a fait la poule, qui a fait l'œuf. Aujourd'hui, quand on en parle, parce que c'est vrai que on parle beaucoup de la fermeture des petites lignes ferroviaires, le gouvernement se défend en disant non, on va pas en fermer, mais si on écoute bien, par exemple, Emmanuel Macron, lors de ses entretiens télévisés du mois d'avril 2018, il disait mais on ne fermerait pas celles qui font sens. Donc ça suppose qu'il y en a certaines quand même qui risquent d'être fermées.
Et Édouard Philippe a dit à propos du fameux rapport Spinetta, je ne suivrai pas le rapport Spinetta qui justement préconisait la fermeture des petites lignes. Et il a dit on ne décide pas la fermeture de 9000 km de lignes depuis Paris.
Voilà. Exact. Mais ce qui est aussi une manière de dire, enfin, si on faut toujours décrypter le langage gouvernemental, en l'occurrence, ça peut être un choix qui sera laissé aux régions, par exemple, à qui reviendra la charge ou non de développer ce réseau ferroviaire. Je parlais de la poule et de l'œuf parce qu'aujourd'hui, on compte effectivement le nombre d'usagers sur ces lignes ferroviaires, mais quand on voit l'offre aujourd'hui en matière de lignes, on se rend compte que, ben oui, vous avez des trains très tôt le matin, ou vous avez des liaisons avec un car, puis une correspondance et un train, voire deux cars et une correspondance. Ben, ça a de quoi décourager fortement la fréquentation des lignes ferroviaires. Donc, le gros problème, c'est que en matière d'aménagement du territoire, pour être clair, aujourd'hui, il y a quasiment pas, on peut pas parler d'aménagement du territoire. Il y avait un bel organisme, alors qui était plus ou moins, qui était décrié, en son temps, mais au moins qui avait le mérite d'organiser le développement du territoire, c'était la DATAR, la Direction à l'aménagement du territoire. Bon, avec des gens qui avaient pour mission de réfléchir à, comment dire, à l'aménagement de la carte nationale, sur tous les plans économiques, sociaux, urbains. Aujourd'hui, tout ça a été laissé au marché, finalement, puisque ce sont les métropoles qui raflent la mise, les métropoles qui cherchent à se rapprocher. Les temps de parcours ont considérablement baissé entre métropoles, alors qu'ils se rallongeaient. On le voit pour Montluçon. On met plus de temps aujourd'hui pour se rendre de Montluçon à Paris qu'on en mettait dans les années 80, par exemple. On mettait moins de 3 heures dans les années 80. Aujourd'hui, si on veut mettre 3h20, 3h30, il faut se lever à 5h du matin, je crois, quelque chose comme ça. Et sinon, il faut 4h dans la journée. Il se trouve que Montluçon est accessible par une ligne qui n'est pas électrifiée. Puis au-delà, il n'y a pas que les liaisons avec Paris, il se trouve que là...
Mais le problème, c'est que le système ferroviaire est quand même très centralisé en France. Enfin, on l'a centralisé, ce qui fait qu'on a laissé tomber les dessertes transversales. Et de plus en plus, il faut passer par Paris quand on veut aller quelque part. Sauf que, par exemple, les Montluçonnais peuvent vouloir aller à Lyon, qui est leur nouvelle capitale régionale, mais là aussi, c'est compliqué.
Alors, pour aller à Lyon de Montluçon, donc c'est 180 km à vol d'oiseau, il faut au mieux 3h30. Et 3h30, c'est bien plus qu'il n'en faut un Lillois pour se rendre à Lyon, sachant que le Lillois habite, ouais, lui, 3 fois plus loin. Et encore une fois, ce sont les meilleurs temps de parcours. Si vous voulez aller à Lyon et vous n'avez pas la possibilité de prendre le train qui vous y amène en 3h30, il faudra compter 4h30, voire presque un peu plus, 4h40. Enfin, ce sont des temps de parcours assez hallucinants. Donc, en fait, très concrètement, ce sont des zones qui ont été laissées à l'abandon. En introduction, Jonathan, tu disais qu'on a assassiné. À mon sens, l'image, ce serait plutôt qu'on les a laissés mourir. On les laisse mourir, quoi. Le sentiment, moi, que j'ai reçu, mais alors qui traverse la plupart des couches sociales, ou en termes de pouvoir, que ce soit les élus ou des gens qui sont très éloignés du pouvoir, c'est un sentiment d'abandon. Voilà. Ces histoires ferroviaires, ces histoires de petites lignes, elles ont une importance évidemment au plan économique, enfin social, mais fermer une ligne, ça, c'est aussi créer une rupture symbolique et psychologique très forte. Voilà.
Montluçon, 5 minutes d'arrêt, buffet gastronomique. Attention, départ s'il vous plaît, fermez les portières. La garenne chevreuse, branlez le petit, signez le chef, Marcel Miller. Attention, départ.
Alors. Madame Méplé de Montluçon.
Faudrait aussi parler de la polyculture de Montluçon, parce qu'on n'y fait pas seulement que du blé.
Qui a dit « Tant que les Français mangeront 2 fois par jour... »
Ah, ce qu'on mange bien, Montluçon. Il y a une gastronomie montluçonnaise, j'ai évoqué les fromages un peu rapidement.
La choupette de Montluçon.
La choupette de Montluçon, oui.
Sur le plan culturel, Montluçon est une plaque tournante.
Et puis il faudrait parler en peinture de l'école de Montluçon.
L'école de Montluçon, où Dalida a-t-elle sa résidence secondaire ?
À Montluçon.
À Montluçon.
Francis Roosevelt avait quand même dit « On s'en fout qu'ils détruisent Pearl Harbor, on ira à Montluçon. » Ça, je ne l'ai pas inventé.
Non. Hein ?
L'une des vitrines de ces abandons, c'est par exemple les vitrines qui sont fermées dans les villes moyennes, ouais, avec des centres-villes qui meurent petit à petit à cause de la concurrence des hypermarchés qui poussent en périphérie de ces villes.
Oui, c'est exact. C'est-à-dire que le capitalisme aidant, ou les excès du capitalisme, ou la manière dont s'organise le capitalisme, fait que eh bien, ces villes, mais c'est aussi le cas de gros bourgs, hein, en dessous des villes moyennes, des petites villes, eh bien, ces villes, elles connaissent une chose assez classique maintenant, c'est l'installation de grandes surfaces en périphérie, sauf qu'à Montluçon, il y en a même une qui est quasiment en centre-ville, à la place d'une, sur un ancien site sidérurgique. Voilà, c'est des grosses surfaces et qui ont la particularité d'assécher le commerce du centre-ville, qui lui-même, alors certains commerçants le notent également, j'allais dire, avec le temps, s'est peut-être aussi laissé un peu endormir. Voilà, on a des centres-villes qui aujourd'hui, effectivement, ont du mal à rivaliser avec les marques qu'on connaît tous, qui sont franchisées et qu'on retrouve autour d'un centre Carrefour ou d'un Auchan ou autre. Hein, voilà. Mais bon, il se trouve qu'à Montluçon, en décembre dernier, il y a un agent immobilier, par exemple, qui a dit « mais c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Il faut simplement se bouger ». Il a fait une réunion, il pensait que 15 personnes viendraient, et en fait, il y a plusieurs dizaines de personnes qui sont venues, il a 160 adhérents, je crois, maintenant, qui se sont mobilisés pour développer une action Montluçon, cœur de ville. Quand vous vous baladez à Montluçon, il y a des grands cœurs sur les vitrines pour attirer l'attention sur cette question.
Et le gouvernement aussi a pris en compte ce problème, puisqu'il a lancé l'année dernière un plan Action Cœur de Ville pour justement essayer de revitaliser les centres-villes des villes moyennes.
Oui, alors l'idée c'est de... Il y a déjà, enfin, c'est comme toute action gouvernementale, elle a déjà ses détracteurs. L'idée c'est de mobiliser de l'argent, quelques milliards, 5 milliards sur 5 ans.
Tu veux dire que c'est pas assez, c'est ça, 5 milliards ?
Il y a des gens, effectivement, qui disent que c'est peu. Et en tous les cas, que ce sont des crédits qui sont déjà mobilisés par d'autres organismes, comme l'ANRU, l'Agence Nationale de la Rénovation Urbaine, ou l'ANA, l'Agence Nationale qui s'occupe de l'amélioration de l'habitat. Disons que c'est déjà une prise de conscience de la part du gouvernement qu'il y a un problème. Quoi. C'était déjà, et ça faisait longtemps, que ces villes-là cherchaient à tirer la sonnette d'alarme, sachant que ces villes moyennes, elles sont confrontées en interne à deux types de problèmes, des vacances commerciales, des vitrines vides, hein, des commerces qui sont inoccupés, et qui est extrêmement forte dans ces coins-là, et aussi de la vacance en termes de logement, parce que les centres-villes se dépeuplent. Il se trouve que en marge de Montluçon, sur le retour, je me suis arrêté à Vierzon, où le maire avait organisé un colloque sur la question de ces centres-villes qui se meurent. Il se trouve que Vierzon, alors c'est terrible, vous avez des rues, mais enfin, on peut se balader un peu partout en France, ouais. On les voit, ces rues, avec ces dents creuses, quoi, enfin, ces façades qui sont fermées ou qui sont passées à la chaux, là, en blanc. Donc, ce plan Action Cœur de Ville, il a pour objet, justement, d'essayer de favoriser les projets locaux pour redynamiser les centres urbains. À Montluçon, avant même qu'il n'y ait ce plan national, la mairie avait déjà développé une
mairie
projet.
De droite, les Républicains.
C'est une mairie, les Républicains, oui. Je me suis aperçu sur le terrain, en enquêtant sur ces difficultés de ville moyenne, qu'à un moment donné, les étiquettes, elles sont... Enfin, je veux dire, les gens les mettent de côté. Parce que là, très concrètement, Montluçon a un énorme problème, on en parlait, de désenclavement ferroviaire qu'il faut opérer. Et très concrètement, le maire de Montluçon, qui est donc un jeune maire, les Républicains, qui a pris la succession de Daniel Duglery, qui lui est un ancien maire depuis le début des années 2000 et qui est aussi conseiller régional, il se trouve que ces gens-là sont du même bord politique que Laurent Wauquiez, mais Laurent Wauquiez qui lui, jusqu'à peu... Mais...
Laurent Wauquiez qui est le président de la région
la région Auvergne-Rhône-Alpes, oui. En fait, Wauquiez, lui, sa position, donc de facto la position du conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est de dire, c'est pas aux régions de se moderniser les lignes ferroviaires, c'est l'État qui, pendant 30-40 ans, n'a pas fait son boulot. Donc il faut que l'État s'engage. Et du coup, la région ne bougeait pas. Ce qui fait que, par exemple, dans la fameuse ligne Montluçon-Paris qui passe par Bourges, où on change de motrice à Bourges parce qu'il faut passer d'une locomotive diesel à une locomotive électrique, eh bien, la région centre, elle, était OK pour moderniser la ligne qui est en mauvais état. Mais la région Auvergne-Rhône-Alpes ne voulait pas. Donc, il y avait des blocages. Mais j'ai appris que depuis peu, là, il y a 8 jours, à peu près, 8-10 jours, Wauquiez a dit que la région s'engagerait à la condition que l'État s'engage aussi de son côté. Donc, c'est un peu du donnant-donnant pour essayer de moderniser ces voies.
Je le dis clairement, je suis pas content parce que le gouvernement et Emmanuel Macron ont un double langage.
Laurent Wauquiez.
À la télé, ils font des belles déclarations, mais sur le terrain, ils font la vitesse à 80 km/h et ils ferment les petites lignes.
4 mai 2018.
Montluçon Paris, on a des conditions de transport qui sont indignes, 3h40, des locomotives qui sont même pas électrifiées, des conditions de fonctionnement qui sont n'importe quoi. C'est des choses qui doivent bouger. On va essayer de travailler avec la région Centre-Val de Loire. Les montants sont considérables. On peut arriver à s'entendre, nous, très bien avec les deux régions. Mais là encore, le blocage qu'on a, c'est ce gouvernement très parisien qui répond pas à nos demandes. Si jamais il y a une réponse de l'État, nous, on répondra présent. L'Allier est un département qui a besoin du désenclavement ferroviaire. Et une ville comme Montluçon en a besoin plus que d'autres.
Mais ça a été le piège de la décentralisation aussi, parce que sous couvert de lutter contre un pouvoir trop centralisé et jacobin, on a transféré des compétences aux collectivités territoriales, régions, départements, communautés de communes, communes, mais sans transférer les budgets qui vont avec. Et là, ce que tu racontes, c'est même pire, puisque le gouvernement tente d'imposer un pacte financier aux collectivités territoriales pour limiter leurs dépenses de fonctionnement, ce qui serait une forme d'austérité qui ne dit pas son nom.
Qui du coup a provoqué une levée de bouclier transpartisane, hein, parce que là, encore une fois, sur ces questions de territoire, il y a une convergence de vues, quel que soit le bord politique. C'est vrai que toutes ces collectivités, très concrètement, ont vu leur dotation, et si on regarde les chiffres, c'est clair que là, on voit que les moyens qui sont donnés aux collectivités ne cessent de baisser d'année en année. On a supprimé la taxe professionnelle, remplacé par
c'est Sarkozy qui l'avait supprimé.
Voilà, et qui avait été remplacé par une dotation, et cette dotation, elle a chuté de 20%, je crois, depuis, hein, enfin, en quelques années, 4-5 ans. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet sur les moyens, et sur ces questions ferroviaires, bah, elles sont en première ligne pour rappeler qu'elles n'auront pas, ou elles vont avoir difficilement la capacité à moderniser les lignes. Il faut aussi dire, pour leur rendre un peu justice, que si je prends le fameux tronçon Bourges-Montluçon, puisque je me suis penché sur cette question-là, très clairement, c'est un défaut d'investissement ou d'entretien ou de maintenance sur les 30-40 dernières années, parce que pendant ce même temps-là, on préférait moderniser ou installer des lignes à grande vitesse, rapprocher les métropoles, et c'est clairement ces lignes-là l'État n'a pas investi dans ces petites lignes à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est vrai que les régions disent « Attendez, nous, on ne va pas récupérer 40 ans d'inaction de l'État ». On parle beaucoup du ferroviaire, mais je ne me suis pas étendu sur le sujet. Ce dont je me suis rendu compte aussi, pour essayer de sortir un peu de la vision citadine qui peut être la nôtre quand on reste un peu trop longtemps figé à Paris, c'est que cette question du ferroviaire, elle est très importante parce qu'elle impacte, comme on dit en mauvais français, d'autres champs de la vie.
Il y a un effet boule de neige.
Un effet boule de neige, par exemple. C'est clair qu'il y a un vrai sujet, alors qu'on connaît partout dans les déserts médicaux, le deuxième sujet qui vient quand on demande à quelles difficultés sont confrontées les villes moyennes, c'est la santé. Parce que, très concrètement, alors il y a un hôpital à Montluçon qui tourne bien. Par contre, cet hôpital, par exemple, a lui aussi des urgences qui débordent. Certaines spécialités ne trouvent pas, ou a très peu de médecins. On m'a cité le cas de la psychiatrie, par exemple. Mais c'est surtout au niveau des généralistes. C'est-à-dire qu'il y a quasiment plus de généralistes. Ils partent tous en retraite en ce moment. Donc il y a une petite ville, j'ai été voir un médecin dans le nord de l'agglomération de Montluçon, à Désertines, c'est un joli nom.
Ça porte bien son nom.
Voilà. Un médecin m'expliquait comment aujourd'hui, ils estimaient autour de l'agglomération de Montluçon à 5-6 000 le nombre de personnes qui ne peuvent pas avoir de médecin référent aujourd'hui. Parce que les médecins référents en place, qui eux ne prennent pas leur retraite, sont surchargés, ne veulent plus prendre d'autres personnes, ne peuvent plus s'engager. Donc du coup, les gens se retrouvent soit à faire des économies en termes de suivi médicaux, soit à aller, quand il le faut, aux urgences. Voilà. Et alors, pourquoi c'est lié avec le ferroviaire ? Parce que les élus locaux cherchent à créer des maisons médicales, comme ça se fait de plus en plus dans les zones rurales. Mais encore faut-il pouvoir recruter des médecins. Et donc, ils sont allés à Montluçon, ils sont même allés jusqu'en Roumanie, chercher des médecins, et les médecins roumains, une fois qu'ils voient où se trouve Montluçon, il faut déjà le situer sur la carte.
Même les Roumains, ils veulent pas venir.
Les Roumains ne veulent pas venir s'installer à Montluçon, essentiellement pour des questions d'accessibilité de connexion, pour pouvoir se déplacer. Donc maintenant, les élus m'expliquaient qu'ils en étaient même à courir après des étudiants français qui, eux, fuient le numerus clausus en France, qui vont étudier en Roumanie, pour essayer de les faire revenir, quitte à leur payer une formation complémentaire pour obtenir une équivalence de diplôme. Voilà, on a toute l'absurdité du système aujourd'hui.
Ascaro, Montluçon, 03. Montluçon 03, Montluçon 03. Montluçon 03, Montluçon 03. Montluçon 03.
Et avec une population qui vieillit, parce que tout ça pousse les jeunes à se barrer.
Alors,
les jeunes après le bac, ils s'en vont, ils vont faire leurs études ailleurs. Éventuellement, ils vont revenir quelques années plus tard, quand ils auront un gamin, pour s'installer au vert dans un petit pavillon. Mais encore faut-il que le conjoint ou la conjointe trouve du boulot sur place. Est-ce qu'il, vu le taux de chômage et l'activité actuelle, n'est pas gagné?
Exactement. Donc il y a effectivement un départ, un exode des jeunes. Les jeunes montluçonnais s'en vont et ne connaissent pas le fabuleux destin d'une habitante. Bah oui, il se trouve qu'Audrey Tautou, si j'ai bien consulté mes fiches, était une ancienne montluçonnaise. Et donc, elle a connu un beau destin, mais ailleurs, oui. Elle est... Donc, ils s'en vont après. Ils reviennent, effectivement, mais c'est assez rare. Il y a quand même de grosses tensions en termes de chômage local, avec un chômage de longue durée. Sur Montluçon, on a une population d'employés, essentiellement d'employés, pas mal d'ouvriers, et inactifs, c'est la grande majorité de la composition sociologique de Montluçon. Il y a très peu de cadres, très peu de professions intellectuelles, de choses comme ça qui sont là. Et c'est vrai que les entreprises, elles ont aussi, qui cherchent des cadres, par exemple, elles ont du mal à recruter, quoi. Parce qu'on peut pas faire venir, voilà. En revanche, il y a un vieillissement de population, comme tu le disais. Il y a une part de retraités bien plus prononcée que la moyenne nationale, sachant qu'il y a aussi des anciens montluçonnais, voilà, qui reviennent sur le tard, qui se souviennent que la région est verte, qu'il y a des canaux, qu'on peut faire du vélo, qu'on peut respirer l'air pur, voilà.
Oui, c'est ça, quelque chose malheur est bon. Et pour finir sur une note positive... Oui, alors,
quelque chose malheur est bon, le prix du mètre carré, là-bas, j'ai vu, après mon enquête, j'ai été voir dans les... Il se trouve que par hasard, je suis tombé sur un chiffre. C'est la ville de France, Montluçon, où le prix au mètre carré, en tout cas pour les villes d'une certaine importance, est le plus bas. Il faut compter, comme ça chacun pourra se repérer, en moyenne 650 € du mètre carré pour un appartement à Montluçon. À Paris, on est dans les quartiers centraux, on est à 10 000, 9 000, 10 000, 11 000, ouais. Voilà. Ouais.
Et voilà, donc...
Alors, on a d'autres positives, oui.
Non, voilà, non, pour donner envie aux gens d'aller à Montluçon, parce que je connais un peu, j'y suis allé à Montluçon, c'est vrai que c'est une ville charmante, et donc on peut s'installer à Montluçon parce que l'immobilier est pas cher, et puis il y a quand même tout un tas d'équipements culturels et sportifs hérités d'une période plus faste, et qui continuent à exister à Montluçon.
Oui, il y a énormément de choses qui se font du point de vue culturel et sportif aussi d'ailleurs. Mais en termes de culture, il y a un centre dramatique national, il y a un théâtre municipal, il y a deux scènes de musique dites actuelles, il y a une sorte de zénith, le centre Athanor, où il y a des concerts. Enfin, il y a une activité culturelle importante sur Montluçon. Il y a un centre historique avec un château qui devrait être un peu réhabilité, qui surplombe la ville, tout ça est assez mignon, les rues sont mignonnes, bref, il y a pas mal d'atouts.
Et donc si on ne cherche pas du boulot et qu'on peut se passer du train, Montluçon c'est la ville idéale où s'installer. La France abandonne ses villes moyennes, c'est ton papier Jean-Michel, dans le Monde d'Hippo de ce mois-ci. Merci.
Merci.
Petite chanson de campagne, faut oublier un peu Paname, un petit morceau de la terre, bien loin du RER. Chanson pour toi qui en a marre de la pollution et des bouchons, des sirènes de pompiers et de la queue au supermarché, des PV et du béton, de la grisaille et même du Panthéon. Une petite chanson citadine pour toi qui vis où tout se meurt, au beau milieu des champs de blé, y'a pas de ciné, y'a pas de ciné à moins d'une heure. Pour toi qui n'as que des vaches, des pissenlits comme compagnie, toi qui t'ennuies dans la nature, viens faire un tour dans ma voiture, je te montrerai des bâtiments et des endroits où c'est qu'il y a tout plein de gens. Une petite chanson citadine, pour toi qui te plains que chez toi y'a rien, toi qui déprime d'être oublié, on parle jamais de chez toi, même au journal télévisé. Pour toi qui vis dans le fond du cul du monde, inconnu sur les maps mondes, toi qui rêves de la capitale, des boîtes de nuit et du quartier Pigalle, dis-toi bien que les citadins qui rêvent de ta vie, y'en a tout plein même à Paris.